Eh bien, nous allons arriver au dernier film donc de la compétition.
Qui était donc le premier choix du prix de la presse, au départ, mais qui finalement a été le prix du public, parce qu'on ne pouvait pas décerner et le prix de la presse, et, enfin pour un seul et même prix, le prix de la presse et le prix du public, donc le soleil d'or et le soleil d'argent. Donc on a dû céder notre prix.
Voilà. Mais bah, finalement, comme vous le voyez, on est assez... Enfin, moi, je suis pleinement satisfait du palmarès au final, également, puisque donc A Story of Yunosuke, donc c'est le film dont on parle, vous l'avez compris, donc qui est un film d'Okita Shiuchi, qui devait être notre prix de la presse et finalement Soleil d'Or, donc c'est très bien si le public en plus l'a aimé. Je suis encore plus content que le deuxième pour le public était loin d'être un choix que j'aurais fait, puisque c'était The Great Passage qui était deuxième et que Black Dawn, je crois, était avant-dernier dans le choix
du
public,
choix,
donc ouais. Très très loin du côté, enfin certainement à cause de son scénario
tarabiscoté.
Exactement. Donc, A Story of Shinozuke, est-ce que Nicolas, tu partages notre enthousiasme sur le film ?
Oui, tout à fait, parce que là, encore une fois, on parle d'un personnage, comme pas mal de films de ce Kino Taiyo, d'un espèce d'introverti un peu exclu social au niveau de la société, qui met, cette fois, c'est un peu l'anti-Bozo, l'anti-Jory Twain, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le côté positif de ce genre de personnage qui ressort. Et donc, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas trop aimé l'aspect un peu shonen de Great Passage, mais là, on est complètement dans le shonen, par exemple, avec ce personnage, puisque le principe, c'est qu'il, toutes les personnes qu'il va rencontrer au fur et à mesure de son existence, il va leur apporter quelque chose, souvent de quelque chose de bien, d'ailleurs, qui va les faire avancer dans la vie. Ouais, ouais. C'est un catalyseur. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ce personnage assez beau, quoi. Et voilà, j'aime beaucoup le film parce que, bon, il dure 2h50, je crois.
2h40.
2h40. Mmh. Et ça passe comme c'est un film d'1h30, donc déjà on s'ennuie pas, c'est déjà un exploit. Et puis je trouve que la construction narrative, tout est brillant dans ce film, je trouve. Il y a une mise en scène, enfin une maîtrise de la mise en scène assez bluffante. Je pense notamment au dernier plan séquence qui est poignant et bouleversant, qui arrive. Voilà, on est déjà conquis par le film, et puis le réalisateur il te lance ça, quoi, et tu fais waouh, génie quand même. Ouais. Et voilà.
Je reviens sur l'aspect shonen, en fait, c'était plus l'aspect du respect des conventions du shonen qui me gênait dans The Great Passage. Sinon, j'ai rien contre des shonen, et je trouve que dans cette classification, il y a des réussites tout à fait mémorables. D'ailleurs, j'ai interviewé le réalisateur Okita, et je lui ai demandé s'il avait pensé à Son Goku pour son personnage, en fait, parce qu'il a cette naïveté que peut avoir le personnage, et ce côté un peu personnage complètement naïf, innocent, candide, et qui va révéler les personnages d'autres. Il m'a dit qu'il n'y avait pas pensé, mais qu'il comprenait ce que je voulais dire quand même, quoi. Enfin, je pense qu'il a été un peu poli à la japonaise pour pas me dire bon, c'est n'importe quoi, mais voilà, quand même. Toi, Mathieu, oui, t'as beaucoup aimé aussi.
Oui, ben j'ai comme disait Nicolas, ce qui était très intéressant, c'était la façon dont était tourné le film, en fait, donc la façon dont était construit le film sur le fait qu'on va avoir des sortes de flashbacks en quelque sorte, ou de flash forward, je sais pas comment, flash forward de comment les gens ont évolué une fois qu'ils ont été au contact de Yunosuke, donc le personnage principal, et voir en fait l'ampleur de l'influence de cet homme qui au départ apparaît comme quelqu'un de très fragile et de très maladroit, qui finalement a été, comme on disait, le catalyseur, quoi. C'était vraiment... Il y avait vraiment une dimension très poignante dans ce film, quoi. Il y avait quelque chose de fort, de, je sais pas comment on pourrait dire, de touchant, je sais pas, c'était vraiment, c'est le mot, c'est, ce film est touchant, quoi. C'est ce qui avait un peu dérangé Antoine, mais...
Oui, il trouvait que c'était un peu, un peu gentil, donc... effectivement, le pitch est assez simple. C'est un jeune homme, donc Yunosuke, qui arrive à Tokyo en 87, donc il débarque pour poursuivre des cours à l'université de Tokyo, Et en fait, dans son parcours, il va croiser différentes personnes. Et le film va ensuite faire des allers-retours entre le présent de la narration qui est 87 et donc on va dire des flash-forward qui vont.
Si c'est bizarre de dire ça, mais.
qui vont montrer ce que les personnages qu'il a croisés sont devenus à son contact. Et à chaque fois, il y a une scène ou deux où ils se souviennent en fait de ce personnage. Et on va voir que finalement son passage a aidé ces gens à se trouver, à s'accepter. Moi je trouve de manière bien plus simple que dans les autres films qu'on a vus, notamment The Great Passage. Il n'y a pas ce côté où faut un peu forcer pour que ça passe. Enfin, je trouve que le film passe pratiquement naturellement. Enfin, il n'y a pas de gros sabots. Tout est fluide, clair, calme et très drôle aussi. C'est vraiment une comédie.
C'est un film en plus qui a le mérite d'alterner de manière très subtile entre le poétique et le burlesque, j'allais dire, mais c'est pas vraiment du burlesque, mais plus entre le poétique et le comique, parce que il y a cette fameuse scène de la neige quand la neige tombe, c'est super beau. Mais à côté de ça, on va avoir cette scène où le mec où Yonosuke prend des cours de samba et qu'on le voit danser la samba, ou quand on voit cette fameuse ce défilé où il se casse la figure, il regarde la vidéo en VHS, il arrête pas.
Et puis même au niveau des discussions entre les personnages, il y a plein de scènes marrantes. Par exemple, quand il parle avec un de ses premiers amis là, dans le sauna au début du film, je crois, il parle de sexualité, mais c'est à mourir de rire, quoi.
Absolument. Il y a ce côté teen movie, en fait. Il y a le côté teen movie qui est super fort dans le film, dans la narration présente, comme tu disais, en 87. Et il y a ce côté-là, très questionnement des vingtenaires sur comment ça marche le sexe avec les filles, etc. Et puis la charnière, les décisions à prendre, est-ce que je prends des cours de samba ou est-ce que je prends des cours d'échecs, et c'est un peu ça, quoi. C'était assez marrant, quoi.
Ouais, et puis voilà, ça alterne entre les scènes humoristiques comme ça et puis aussi des vraies scènes poignantes. Je pense par exemple à la scène où pendant tout le film il y a une trentenaire là qui rencontre à plusieurs reprises. Et justement une espèce de suspense comme ça pour savoir si ils vont un peu finir ensemble ou pas, ou s'ils vont coucher ensemble. Et du coup dans la dernière scène où ils se rencontrent, c'est quand elle est avec sa mère, je sais pas si vous vous rappelez, à l'hôtel là. Et je trouve que c'est une scène d'une mélancolie assez bouleversante, quand parce qu'en fait on a l'impression qu'elle s'est un peu servie de lui tout le long du film pour accéder à des gens, ou je sais plus exactement, mais là, puis lui, à chaque fois, elle a été très serviable, il l'a aidé, et là, on a l'impression qu'elle le regarde presque avec amour. Enfin, c'est le seul personne finalement parmi tous les hommes qu'elle côtoie dans son milieu qui l'a écouté, qui l'a aidé, qui pense à elle, quoi, qui.
Donc, parce que c'est un personnage qui n'a pas d'arrière-pensée, en fait. Voilà. Enfin, c'est un personnage qui est très qui est extrêmement attachant, c'est qu'effectivement il vit sans arrière-pensée, ce qui est assez passionnant de suivre effectivement l'évolution de ce personnage et des personnages qui l'entourent. Et l'autre chose qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est la précision de la mise en scène, et notamment dans le sens du cadre et de l'absurde qu'il y a dans les touches humoristiques qui peut avoir, moi, qui m'ont fait penser un peu à du Wes Anderson, par exemple, dans ce décalage, un peu en japonais. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'était un prix, un soleil d'or
unanime. Tout à fait
unanime, mérité, donc... Et une très très belle découverte, en tout cas, de Kino Taiyo.
Même en 2h40, ça m'étonnerait qu'il sorte en France un jour, malheureusement.
Oui, malheureusement. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que les réalisateurs... tu disais que c'était étonnant que les films se passent souvent dans les années 80 ou 90, en fait. Et moi, je pense que c'est dû au fait que les réalisateurs sont relativement jeunes, en fait, et qui s'approchent de la quarantaine. Et que du coup, ils doivent s'inspirer de leur, je sais pas, leur vie passée, quoi.
Oui, un truc de finalement un peu autobiographique, je pense,
absolument,
Non, non, 87, je crois que le... Alors, justement, le radiateur était un peu plus jeune.
Il est de 77,
ouais. Donc, mais c'est effectivement une...
Bah, il a 10 ans en 87, c'est la période où on commence vraiment à se rappeler des... Enfin, on a nos premiers grands souvenirs, et peut-être que ça lui... je sais pas, il a peut-être voulu faire un film sur tout ce qu'il avait marqué en 87, sauf que c'était pas évident de faire un film sur un gamin de 10 ans. Peut-être c'était plus facile de faire une sorte de teen movie, quoi. Je sais pas.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour des films en compétition.